Bien, bienvenue tout le monde, bon matin. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, vous l'avez entendu, on est Église Il y a plus. Je me présente rapidement, je m'appelle Stéphanie Beaulieu, j'ai 46 ans et je suis pasteur ici à l'Église. Qu'est-ce que c'est Il y a plus? On est une Église chrétienne. Ça fait 3 ans, c'est notre 3e année d'implantation cette année déjà. Et puis, on est super heureux d'être ici à Jonquière. On voulait être dans une place où les gens, c'est accessible facilement. Et puis, l'idée d'Église Il y a plus, en fait, c'est de découvrir Jésus autrement. Puis, c'est pour ça qu'on sort un petit peu des sentiers plus traditionnels pour avoir une forme un peu plus jeune, un peu plus actuelle. Oui, on veut rejoindre, en fait, les gens de toutes les générations, mais on a les jeunes aussi sur notre cœur en particulier. Mais tout le monde est important. Donc, tout le monde, bienvenue ce matin. J'espère que vous allez bien. Oui, non? Oui? Non, ben, oui, pas pire. Fait qu'on est dans la poursuite de notre série Pray ce matin. On a commencé il y a déjà 3 semaines, puis c'est déjà notre dernier message ce matin de la série. Donc, puis on a vu en fait, la série Pray, le concept c'est « Et si la prière n'était pas ce que je croyais? » Et si on redécouvrait ensemble la prière? Des fois, on se dit, on prépare des séries, des messages comme ça, puis on se dit, bien, la prière, c'est la base. Hein? Quand on est croyant, il me semble que c'est la base. On a-tu besoin de revenir là-dessus? Puis je me rends compte que même moi, pour moi, c'est bon que je revienne souvent à c'est quoi la prière. Parce que je me rends compte que plus je redécouvre la prière, plus j'apprends à connaître Dieu encore plus. Même après 25 ans de vie chrétienne, j'en ai encore besoin de la prière. J'en ai encore plus besoin de la prière. Je ne sais pas si c'est comme vous, mais moi, c'est ça. Donc, on a vu ça. Puis, en fait, on a vu la première partie aussi, c'est « j'aime pas prier ». En fait, puis l'idée de ça, c'était un peu de dire, bien, prier, c'est pas naturel pour nous. On a besoin d'apprendre à prier, mais pas juste ça, de réécouter pourquoi on prie, puis est-ce que ça change vraiment quelque chose, prier? Est-ce que ça a réellement un impact, prier, dans notre vie? Est-ce que Dieu m'entend vraiment? Hein? On se pose toutes ces questions-là des fois. Puis on avait avec Stéphane la semaine passée, avec son bon message, quand prier ne change rien. Puis on a tous expérimenté dans nos vies des temps de prière où on prie pour quelque chose, puis il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien. Des fois, on prie, ça bouge tout de suite, puis on n'espérait même pas un changement. Puis d'autres fois, on prie, on veut que les choses bougent, puis il n'y a rien qui se passe. Puis ce qu'on a vu avec Stéphane, justement, c'est que, bien, finalement, oui, Dieu agit toujours. Dieu change les choses, mais des fois, ce qu'il a besoin de changer, ce n'est pas tant les choses autour de nous, mais c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Et c'est là que Dieu va changer en premier. Donc, avant d'aller plus loin, on va commencer en priant. Vous êtes d'accord? Merci Seigneur pour ce que tu es, Seigneur. Merci parce que tu nous offres cette opportunité-là, ce matin, d'être instruit par toi encore, moi la première, puis tout le monde ici, de l'importance, Seigneur, de la prière, de l'importance, Seigneur, d'avoir ce moyen-là de communication avec toi. Seigneur, je te demande d'ouvrir nos cœurs ce matin par ton esprit. Je te demande de venir parler à nos cœurs. Je te demande de venir nous rencontrer là où on a besoin. Seigneur, on a tous des luttes dans nos cœurs, on a des incompréhensions, on a des fois des idées préconçues. Je te demande, Seigneur, de venir nous donner ton cœur à toi ce matin, sur ce que tu veux nous dire, de venir guérir à des places là où on a besoin d'être guéri. Seigneur, je te remets toutes choses entre tes mains, Seigneur, puis je prie vraiment que ce soit ton œuvre qui se fasse dans nos cœurs ce matin. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Fait que, là, vous allez rire. Le titre de mon message ce matin, tu sais, on a vu « J'aime pas prier », quand prier ne change rien. Ce matin, c'est « La prière qui change tout ». Avez-vous hâte de la découvrir? Non, on n'est pas bipolaire. C'est pas qu'on ne sait plus quoi dire, non, non. La prière qui change tout. Ce qu'on a vu, en fait, au cours de la série, puis j'aimerais ça vous dire ce matin, vous donner la formule parfaite de la prière parfaite. Tu sais, du numéro 649, le gagnant qui va faire en sorte que tu vas prier cette prière-là, puis tout va fonctionner, tout va se régler, tu vas avoir tout ce que tu veux. Eh bien, ça n'existe pas. Cette prière-là, non, elle n'existe pas, cette prière-là. On a vu, en fait, puis ce qu'on a constaté, c'est que la prière, ce n'est pas une question d'avoir une bonne approche, d'avoir la bonne recette, la bonne formulation. la bonne prière avec les bons mots. Non, ce n'est pas ça. Ce qu'on a réalisé au cours de la série, en fait, c'est que la prière tout court amène du changement, que ce soit à l'extérieur de nous ou à l'intérieur de nous. La prière tout court change, à commencer par notre cœur. À l'exemple de... excusez-moi, je ne voudrais pas... je vais rattacher mon soulier. Parce que si je tombe, ça ne sera pas beau. OK, je continue. Ce qu'on a vu avec Jésus, quand ses disciples, on l'a vu le premier message, quand ses disciples sont venus voir Jésus, « Enseigne-nous à prier. » On voit que tu pries. Il y a quelque chose de différent, toi, quand tu pries Dieu. Tu pries ton Père. Et puis, Jésus leur enseigne, va leur enseigner notre Père, en fait, comment prier. Mais c'est, on a vu que ce n'était pas tant une formule à répliquer. Mais en fait, c'est avec ton cœur, va vers ton Père. Il y a un Père qui t'attend. Ce n'est pas un Dieu impersonnel. Puis juste avant qu'ils commencent à leur dire justement le Notre Père, il dit « Faites pas comme les religieux qui pensent qu'ils vont être exaucés à force de prière, parce qu'ils parlent fort, parce qu'ils utilisent beaucoup de mots, parce qu'ils ont un vocabulaire recherché, puis ils font des longues, longues, longues prières. » Ce qu'il est en train de dire, c'est que la prière, ce n'est pas un moyen de manipuler Dieu pour avoir ce que tu veux. Ce n'est pas parce que tu utilises beaucoup de mots puis que tu pries très longtemps que tu vas mériter une faveur de Dieu encore plus, puis une réponse encore plus rapide. Ce que Jésus est en train de leur dire, c'est que ce n'est pas une question de performance. Tu ne peux pas mériter une prière. Tu ne peux pas mériter l'attention de Dieu. En fait, viens avec ton cœur. Il y a un papa qui est là, qui t'attend, comme un enfant. Dieu t'attend, il est là. Viens avec juste ton cœur. Tu peux être en sécurité à prier Dieu. Tu n'as pas besoin de performer quoi que ce soit. Avant tout, c'est un moyen d'être avec Dieu, tout simplement. Avec Dieu, ton papa, celui qui t'a créé. De réaliser qu'il est là. Il est déjà là à t'attendre. Puis dans toute la Bible, on voit cette invitation-là, cette invitation constante-là à la prière, à rentrer, en fin de compte, dans une relation avec Dieu, dans un échange avec Dieu. C'est ce qui préoccupe le cœur de Dieu le plus. Ce qu'on découvre dans la Bible, en fait, parce que là, on peut se dire après la série, OK, on veut réapprendre à prier, on veut, mais finalement, comment on approche la prière? Mais c'est tout simplement, finalement. Puis Jésus, c'est ce qu'il a démontré. Puis premièrement, ce qu'on découvre sur la prière dans la Bible, c'est qu'on doit prier en tout temps et pour tout. Parce que des fois, on se dit, ouais, mais on l'a abordé, si Dieu sait tout, ça sert à quoi de dire? Puis pourtant, la Bible va dire un peu le contraire, de dire, bien, c'est important, oui. Adresse tout à Dieu. C'est un moyen de communication, de relation. On voit Jésus qui est toute la Bible, en fait, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, il y a cette invitation-là à la prière, comme je disais, qui est constante, constante, puis on a des exemples. Puis on découvre, en fin de compte, que la prière n'est pas une option dans nos vies. C'est là qu'on voit que c'est comme vital, c'est comme un organe vital. Puis on voit l'exemple de Jésus avec ses disciples qui leur montre comment prier, que Jésus souvent se retire seul pour aller prier. Il prie pour l'Église, il prie pour ses disciples, il prie pour les gens. On voit qu'il a prié seul, qu'il a prié à Gethsémané dans des temps d'épreuve, il a prié dans le désert, il a prié à la croix, il a prié quand ça allait bien, il a prié quand ça allait mal. Il a enseigné à prier, de l'importance de la prière, il disait de prier simplement, des fois en secret, des fois en groupe, avec persévérance, avec conviction, avec humilité, avec un cœur sincère. Puis ça continue. Quand on passe les évangiles, puis on se rend compte avec les disciples, les apôtres, l'apôtre Paul en est un autre exemple, qui n'arrête pas de dire, qui n'arrête pas d'inviter les gens à prier, prier. Il a écrit les lettres, toutes les épîtres, les lettres qu'on a dans le Nouveau Testament. Il s'adresse aux églises, il prie pour eux, il prie pour les disciples, il prie pour les croyants, il prie pour les non-croyants aussi. Il encourage à prier. Dans Éphésiens 6, 18, à partir du verset 18-19, ça dit « prier sans cesse ». C'est Paul qui dit ça, « prier sans cesse ». Prie. On a besoin de prier. Le monde a besoin de prière. Prie sans cesse. Faites toutes vos prières, vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement. Il y a quand même beaucoup de prières là-dedans. Hein? Pour tous les chrétiens, priez. Prie pour les chrétiens, prie pour les croyants. Priez aussi pour moi. Il demande la prière pour lui. Je prie pour les autres, mais j'ai besoin de prière pour moi. Pour que Dieu mette sa parole dans ma bouche, j'ai besoin de prière. Alors j'annoncerai avec courage le mystère de la bonne nouvelle. On prie pour les autres, mais nous aussi, on a besoin de prière. On voit aussi dans plus loin dans les évangiles que même les prières de Paul vont ouvrir. Parce que Paul prie pour un malade, puis il est guéri, puis ça ouvre les portes à l'évangile sur l'île de Malte. Il y a des conversions qui se passent sur l'île de Malte à cause de la prière de Paul. Jacques qui commande de prier. C'est même un commandement, prier les uns pour les autres afin d'être guéri. On voit Pierre, quand il est enfermé en prison aussi, à un moment donné, il est enfermé parce qu'il répand l'Évangile, les soldats viennent l'arrêter, il est en prison. Qu'est-ce que l'Église fait? Qu'est-ce que les croyants font durant ce temps-là? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de prier. Ils sont dans une maison en train de prier, puis ils prient, puis ils prient. Puis qu'est-ce qui se passe durant la nuit? Il y a un ange qui arrive pour libérer Pierre de prison. Et on voit que la prière agit. Dans la chambre haute avec les disciples, Jésus leur disait, attendez de recevoir la promesse que je vous ai dit, le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis, ils ont prié. Le Saint-Esprit est venu. Puis on voit, ne serait-ce que ça, c'est quelques exemples. Je passe rapidement, mais même dans l'Ancien Testament, on voit Abraham, à un moment donné, qui prie avec Dieu, qui intercède avec Dieu, puis même qui est en train de négocier avec Dieu. Il y a un échange avec Dieu, ils se connaissent. Puis il prie, il demande à Dieu pour Sodome et Gomorre. Dieu arrive, puis il voit que le mal est répandu dans cette ville-là, puis il n'y a plus rien à faire, il faut la détruire. Puis Abraham va négocier avec lui. Oui, mais s'il y a tant de justes dans la ville, est-ce que tu vas la détruire? Non, je ne la détruirai pas. Fait qu'il y a comme un échange comme ça qu'on voit, où on voit que Abraham parle avec Dieu, Dieu répond, puis il entend Abraham. On voit aussi Anne qui va au temple à chaque année. Pour avoir un enfant est stérile, puis à chaque année, elle prie Dieu. Puis qu'est-ce qu'on voit quelques temps après? C'est que Dieu exauce sa prière. Anne a un enfant. On voit des exemples avec Moïse, avec David. Tantôt, on voit des exaucements de prière qui se passent, puis nous, c'est facile parce qu'on a l'histoire terminée. On lit le livre de ces personnages-là, puis on voit que Dieu a agi. Mais pour eux, ça ne devait pas être nécessairement évident parce qu'on ne sait pas le gap de temps qu'ils ont prié. On ne sait pas combien de temps. Comment ça s'est passé? Mais on lit, puis oh, Dieu a répondu. Mais Dieu répond. Dieu répond toujours. Fait que des fois, c'est des exaucements, mais des fois, il répond selon sa volonté. La Bible est remplie, comme je dis, est saturée de prières, finalement. On ne peut pas passer à côté. Puis c'est là que je viens aussi. Oui, on fait une série sur la prière, mais l'importance de lire la Bible. On va dire, bon, c'est un pasteur, c'est sûr qu'elle va nous dire de lire la Bible. Oui. C'est super important, autant que la prière est importante. Parce que Dieu parle beaucoup au travers de la Bible. Oui, Dieu nous parle dans les moments de prière. On a des temps de recueillement avec lui. On lui parle. Il nous répond dans des moments de silence. On est juste avec lui. Mais Dieu parle beaucoup au travers de la Bible. Fait que dans nos temps avec lui, c'est hyper important d'avoir ces moments-là précieux où Dieu a plusieurs options pour nous parler. On ne limite pas Dieu. Ça fait partie des options par lesquelles Dieu nous parle. Dans Éphésiens, je poursuis, Éphésiens 4, versets 6 et 7. Encore Paul qui dit, « Ne soyez inquiets de rien. » Ne soyez inquiets de rien. C'est facile à faire, hein? « Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. » Il y a une clé ici, le cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Tantôt, Jésus a dit, tu sais, arrêtez de prier comme les religieux qui pensent qu'ils vont prier beaucoup, puis tout ça, qu'ils vont être exaucés. Puis ce que Paul dit ici, c'est que, pas ça, mais arrêtez pas de prier. Prie avec ton cœur, viens avec ton cœur, OK? Viens avec un cœur reconnaissant. Viens avec un cœur vrai. Viens avec toutes tes inquiétudes. Viens tout répandre ça. Puis il y a une clé ici avec la reconnaissance. Puis ce n'est pas pour rien que Dieu mentionne ça, que Paul va mentionner ça. Parce qu'il y a une corrélation entre la crainte et la reconnaissance. Puis ce qui est étonnant aussi, j'ai vu qu'il y a des études qui ont été faites dans les débuts d'année 2000. On parle de 2003, qu'il y a des chercheurs qui ont réalisé en fait plusieurs études qui ont démontré que y a les gens qui pratiquaient la reconnaissance sur une façon régulière avaient un taux de cortisol beaucoup moins élevé que ceux qui ne la pratiquaient pas. C'est quand même étonnant. Puis quand je parle de l'hormone, la cortisol, en fait, c'est ça, c'est l'hormone qui est libérée quand on est stressé. Quand on est stressé, on vit du stress. Puis on sait que médicalement, ça a un dommage à la longue sur le corps, sur les organes. C'est quand même intéressant de voir que, moi, ça m'émerveille. Ça m'émerveille toujours de voir l'intelligence de Dieu. C'est le côté extraordinaire de Dieu, qui créateur qui nous a créés, puis qui sait qu'il y a un lien entre la reconnaissance puis notre santé physique, finalement. Puis le fait que aussi d'être reconnaissant, c'est dur d'être, quand on est reconnaissant, de rester dans la crainte. Ça ne marche pas. Le fait d'être reconnaissant, de se pratiquer être reconnaissant, parce que ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour nous, on va se le dire. C'est beaucoup plus facile de voir ce qui ne fonctionne pas, le négatif. Puis ça, il y en a dans nos vies. Il y en a toujours, il y en a à chaque jour, à chaque semaine. Il y a toujours quelque chose, hein? C'est facile. Puis c'est facile de mettre notre focus là-dessus. Mais c'est un effort, puis c'est un exercice, comme aller s'entraîner. C'est un effort sortir y aller, parce que ça nous demande. Ça va demander un effort. C'est la même chose avec la reconnaissance. Ça demande de s'arrêter, puis de faire l'effort de dire, mais qu'est-ce qui est beau? Pourquoi je suis reconnaissante dans ce qui est en train de se passer? Dans ce que je suis en train de vivre? Pourquoi je pourrais dire merci? Qu'est-ce qui est un cadeau dans tout ce que je vis? Ça peut être notre maison, ça peut être le travail, ça peut être nos enfants, ça peut être des fois oui, des fois non. Vous comprenez, ça peut être plein de choses. Mais des fois, on prend tout pour acquis, puis on focus sur juste ce qui va mal. Puis pourtant, il y a quelque chose de très puissant dans la reconnaissance. Puis même les non-croyants qui constatent ça, c'est ça que je suis en train de vous dire ce matin. Puis je dis que ça m'émerveille parce que la science fait juste confirmer souvent ce que Dieu a déjà dit dans la Bible. Souvent, c'est ça. Fait que d'autant plus merveilleux. Amen! Je vais dire amen à ça, hein? Puis je disais tantôt, c'est même un commandement, puis je m'en viens là. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 et 18. C'est Paul encore qui dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. » C'est des impératifs. C'est un commandement. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Remerciez Dieu en toute occasion. » Remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous. Des fois, on cherche c'est quoi la volonté de Dieu. Prie. Sois reconnaissant. C'est ce qu'il attend de toi, qui est uni au Christ Jésus. Prie en toute occasion. C'est ce qu'il attend de nous. C'est une arme, la reconnaissance. Quand on réalise ça, c'est une arme. C'est une arme contre la peur, contre l'anxiété, contre le stress quotidien. Ça ne veut pas dire qu'ils ne reviendront pas, évidemment qu'ils vont revenir, mais c'est une arme qu'on a. Puis quand on pratique la reconnaissance, c'est là que nos yeux s'ouvrent aussi sur ce que Dieu est en train de faire. Quand on ne prend pas l'habitude d'être reconnaissant, c'est dur de voir ce que Dieu fait. Puis souvent, on pense que Dieu n'agit pas du tout. Mais le fait de dire merci pour certaines choses, c'est là que Dieu va ouvrir nos yeux à sa bonté, à sa fidélité. Ah, finalement, ça, c'est bon. Ah, finalement, Dieu est en train d'agir là. Il est en train de faire ça. La reconnaissance, c'est une prière très puissante qu'on ne réalise pas, mais c'est une prière, la reconnaissance. Paul va même nous encourager aussi, là on a parlé de la reconnaissance, mais même à prier pour nos autorités. Quand je parle d'autorité, je parle de ceux du gouvernement et tout ça. Bon, là, je sais, c'est un sujet sensible. Je ne parlerai pas de politique, je parle de notre gouvernement, de ceux qui prennent des décisions, qui nous représentent, de ceux qui sont au pouvoir. Remercier pour nos dirigeants, prier pour eux, ça semble pas naturel, mais c'est hyper important, c'est hyper puissant. Exemple personnel, je fais partie d'une équipe de prière, ça fait à peu près 2-3 ans, ça s'appelle Appui de Pointe. Il y a une division Québec, en fait, il y a une division pour chaque province, puis en fait, il y a une équipe qui prie. Puis tout se fait anonymement, en fait. Puis, on est une banque d'intercesseurs, si on veut. Puis, à chaque 6 mois, moi, il y a 5 députés, noms de députés qui me sont attribués. Fait que moi, je prie pour ces 5 députés-là. Puis, je ne les connais pas. Puis, souvent, ben, je les reçois. Fait que j'ai un nombre de semaines pour prier pour eux. Puis, souvent, ben, je vais voir leur biographie. Puis en écoutant leur biographie, je me rends compte que je demande au Saint-Esprit, ben, parle-moi de lui. qu'est-ce que tu veux que je prie pour lui? Puis là, j'écris ma prière. Puis eux, ils reçoivent ces prières-là. Puis savez-vous quoi? Ils sont touchés par ces prières-là. Il y en a beaucoup qui ne sont pas croyants dans nos députés, dans nos ministres. Mais souvent, ils sont touchés. Puis il y a un travail qui est en train de se faire, justement, de l'Évangile au Parlement de Québec et à Ottawa, parce qu'il y a des aumôniers qui ont commencé à venir puis à prier pour eux. C'est un ministère hyper important. Mais on ne se rend pas compte. Ça se fait tout anonymement. Ils ne savent pas qui prie pour eux. On pense que ça n'a pas d'impact, mais ça en a un. Puis le fait de recevoir quand il y a quelqu'un qui prie pour moi, il n'y a pas de sans préférence politique. La prière est très neutre, mais on prie que Dieu les bénisse, que Dieu les fortifie, qu'ils renouvellent leur force. Ça les touche et ça ouvre leur cœur. Après ça, ce qu'on a comme témoignage, c'est que les aumôniers qui sont sur place, quand il y a certains députés qui ne vont pas bien, là, parce qu'ils ont reçu des prières, parce qu'ils savent qu'il y a des aumôniers, des fois, ça ne va pas bien dans leur vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont cogner à la porte de l'aumônier. Fait que c'est vraiment hyper important. Priez pour ça, d'ailleurs. mais ce que ça l'a fait, en fait, c'est que, de un, je me suis rendu compte, bien, ça l'a changé mon regard sur les politiciens. Vraiment. Ça l'a changé mon cœur par rapport à eux autres parce que je ne les vois plus de la même façon. Je me rends compte que c'est des êtres humains avec des luttes comme tout le monde, des problèmes comme tout le monde, des défis comme tout le monde, mais avec un cœur de vouloir changer les choses. C'est des gens engagés souvent qui sont là, qui veulent apporter du changement avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils peuvent. Mais c'est vraiment un ministère incroyable qui se fait dans l'ombre justement, puis que personne ne voit, mais hyper puissant. Puis c'est ça que je dis quand la prière change les choses. Moi, le fait de prier pour eux, ça me change moi, ça change mon regard sur eux. Puis je sais que Dieu, au-delà de tout ça, agit dans leur vie aussi, est en train de faire une œuvre. Mon deuxième point, quand je dis que la prière, qu'est-ce que ça, quand on parle que la Bible nous encourage à prier en tout temps, mon deuxième point, la Bible nous encourage à prier avec foi. Avec foi, c'est important. Il y en a qui ont des enfants ici? Oui? Je me rappelle des fois quand j'avais un de mes garçons, il était plus petit, puis des fois il m'approchait, il me disait, ben, tu sais, je le sais que tu ne voudras pas, là, mais il commençait sa phrase comme ça. Puis là, ben, je dis, ben, dis-le-moi, tu sais, si tu ne me le dis pas, je ne pourrais pas te dire oui ou non. Puis je me suis rendu compte qu'avec le temps, c'était une petite technique de manipulation. Quand même intelligent. Mais souvent, c'est ce que la Bible nous encourage. Viens avec foi en sachant que Dieu est réellement là puis qu'il veut. Il veut t'écouter. Il veut répondre. Il veut t'écouter. Il est là. Donc, c'est ça l'idée de dire viens avec foi, viens avec confiance, viens avec assurance que Dieu il est là puis il t'entend. Dans Hébreux 4, 16, ça dit « Approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant. Sois en confiance que Dieu il est là, il est tout puissant. Et qui nous aime. Non seulement on doit s'approcher, on est encouragé à s'approcher avec confiance. Il y a un Dieu puissant qui est là, puis ça, il nous aime. Je veux dire, toutes les combinaisons gagnantes sont là, il nous aime. Près de lui, nous recevons le pardon. Nous trouvons son amour. Et ainsi, il nous aidera au bon moment. Wow! Il comprend notre humanité. Si Dieu est tout-puissant pour nous répondre, il comprend notre humanité. Il s'est incarné, Jésus s'est incarné, pleinement homme. Il comprend notre humanité, il comprend nos luttes, il comprend nos souffrances, il comprend nos tentations. Puis il les a toutes vaincues. C'est pour ça qu'il peut venir à notre secours, il peut nous aider, il est là, il a vaincu le mal. On est encouragé, Dieu a un Dieu puissant qui nous aime. Qui nous aime, qui nous attend, qui est là. Dans Hébreux 11:6, ça dit « Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. » Puis ça me faisait penser à mon garçon, je veux dire, qui vient, « Oh, mais tu ne voudras pas, là. » Mais, tu ne le sais pas. C'est la même chose avec Dieu. On a un papa qui est là, puis il veut qu'on s'attende à lui. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dieu aime répondre. Ce ne sera peut-être pas comme tu penses qu'il va répondre, mais Dieu aime répondre. Ce qu'il faut réaliser, c'est que la prière, en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui nous est offert, mais c'est un cadeau qu'on se fait aussi. Ça me fait penser des fois à notre propre vie. La vie qui est un cadeau, puis des fois, en dépendamment des circonstances, des fois ça vient pénible la vie, OK? Je comprends, il y a des situations, des périodes difficiles. Mais on va se rencontrer souvent des gens qui vont subir leur vie plutôt que de la vivre. Puis pourtant, Jésus dit, je suis venu apporter la vie, puis la vie en abondance. Mais la prière, des fois, c'est un peu ça. Il y en a qui subissent la prière au lieu juste de la vivre, puis de la vivre pleinement. Je me rends compte que moi-même, dans ma propre vie, j'ai besoin de me rappeler que j'en ai besoin, que c'est une source de vie, parce que je me connecte finalement à la vie elle-même, la source de la vie. La prière, c'est un cadeau parce que ça me donne accès à Dieu. C'est une ligne directe, c'est Wi-Fi 24/7. Il n'y a jamais d'interruption, il est toujours là, il n'est jamais trop occupé. Tu es toujours la priorité de Dieu. Toujours. Toujours. Tu es toujours sa priorité. C'est un cadeau de savoir que je peux dire n'importe quoi, que je peux venir dans sa présence, que je peux dire n'importe quoi, qu'il peut voir le plus laid de moi, de savoir qu'il est là pareil, qu'il m'écoute. C'est un cadeau aussi de savoir que je peux tout y dire, ce qu'il y a sur mon cœur, que je suis écoutée, que je suis reçue. C'est un cadeau que j'ai, que je peux confesser ce qu'il y a de plus laid en moi aussi. Puis c'est un cadeau de recevoir son pardon. Il attend juste ça. C'est un cadeau. La Bible nous encourage aussi de prier avec, là j'ai dit en tout temps, avec foi. Troisième point, c'est avec humilité. D'approcher Dieu avec humilité. Matthieu 7 à 8, ça dit « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve. Et si quelqu'un frappe à la porte, on lui ouvre. » Mais ça commence par demander. Demande. Demande. Viens avec tes demandes. Viens. Viens avec ton cœur, viens, cherche, frappe, tu vas trouver. C'est une invitation constante à venir dans la présence de Dieu. Viens. Tu sais, des fois, on est dans un couple, puis je ne sais pas si, en tout cas, vous l'avez sûrement, peut-être pas vous, mais on est dans un couple, tu sais, au début, les premières années de mariage, on apprend, hein? On apprend toujours, mais toujours de l'ajustement, mais il y a encore plus d'ajustement au début, on va dire, puis hein, souvent, t'aurais dû savoir que ça, j'aime ça. Puis t'aurais dû savoir, puis t'aurais dû deviner que, hein? Puis évidemment, on vient qu'on apprend à se connaître, mais ça aurait été tellement plus simple juste de le dire. Juste de dire, parce qu'on est en relation ensemble. Puis c'est un peu comme ça avec Dieu. C'est pas que Dieu ne sait pas, il sait. Mais c'est l'invitation constante à, hey, on a un cœur à cœur ensemble, on a une relation ensemble. Tu peux tout me demander. Cherche-moi. Je vais être là. Juste avant son arrestation, Jésus, on le sait, il est dans le jardin de Gethsémané. Puis, il passe des heures pas faciles. La peur est là, la crainte est là, il sait qu'est-ce qui s'en vient, la croix s'en vient, la souffrance s'en vient. Dans Luc 22, 39 à 49, ça dit « Jésus sort et il va au mont des Oliviers, parler selon son habitude. Ses disciples le suivent. Quand il arrive à cet endroit, il leur dit « Priez ». Il leur demande « Priez ». Priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Jésus est tenté présentement. Il réalise qu'est-ce qui s'en vient, puis il est tenté. Puis on va voir plus loin. Jésus s'éloigne des disciples, il va quelques mètres plus loin, et il se met à genoux et il prie en disant, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance. » L'esprit du mal vient tenter Jésus. Tu pourrais éviter cette souffrance-là. C'est humain de dire, hey, « je ne veux pas souffrir. » Mais qu'est-ce que Jésus? Jésus continue. Il vient avec son cœur à Dieu. Il vient vrai. Hey, c'est ça que je suis en train de vivre. C'est ça que j'aurais le goût. Éviter la souffrance. C'est ma lutte présentement. Mais il savait clairement la volonté de Dieu. Il dit, pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Tout de suite après, alors un ange du ciel se montre à lui pour lui redonner du courage. Puis je l'aime ce verset-là. Après, il continue. Jésus a peur et il est très inquiet, même après avoir eu la visite de l'ange. Il a encore peur, il est encore inquiet. Puis il prie avec plus de force. Il prie encore. Sa sueur devient comme des gouttes de sang qui tombent par terre. Malgré la peur, malgré tout, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? « Seigneur, viens, j'ai besoin de toi. Je ne vais pas souffrir, mais tu sais que je vais faire ta volonté, pas la mienne. » Puis c'est ce que Jésus enseigne, est en train d'enseigner à ses disciples. Tu vas être tenté. Tu vas être tenté de faire à ta façon. Tu vas être tenté d'éviter les souffrances dans ta vie par des moyens, des fois, que tu sais que Dieu, c'est pas la meilleure chose pour toi. Tu vas être tenté de plein de choses. Tu vas être tenté de régler les choses à ta façon. Puis c'est pas mal d'être tenté. Mais viens juste me dire que tu es tenté. Viens avec ton cœur. Puis je vais être là pour te secourir. Je vais être là pour te fortifier. En fait, la prière qui change tout, Jésus l'a faite là. La prière qui change tout, c'est elle. Ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est la prière la plus puissante puis la plus dangereuse que Jésus a faite. C'est la prière la plus puissante puis la plus dangereuse que je peux faire. Est-ce qu'on fait des prières dangereuses? Dan, il se cache. Est-ce qu'on fait des prières dangereuses? Où on prie juste, c'est pas mal, comme je l'ai dit, on vit avec notre cœur, avec ce qu'on vit devant Dieu. Mais est-ce que ça finit, Seigneur, viens. Et juste me soulager, fait qu'il m'arrive jamais ci, jamais ça. Viens répondre à ci, viens répondre à ça. Ou juste, Seigneur, OK, je te donne tout ça. Maintenant, fais ce que tu veux. Oh. Ça peut brasser des choses. Ça, c'est une prière dangereuse. Parce que ça peut me sortir de ma zone de confort. Ça, il va y avoir des changements. Dieu répond à ça. Il y a une routine, peut-être, qui va changer. Si je prie cette prière-là, peut-être que je vais être amenée à prendre action, peut-être que je vais être amenée à prendre des décisions. Il va y avoir du changement, il va y avoir du brassage, mais est-ce que je suis prête à ça, à prier des prières dangereuses? J'inviterai Vicky à s'avancer, s'il vous plaît, à la fin de mon message. Puis souvent, ce qu'on se rend compte dans notre vie de prière, puis si on est honnête, c'est qu'on ne prie pas des prières dangereuses. On veut du changement, mais on ne veut pas nous changer. Puis les prières dangereuses, mais ça nous change, nous. Le prophète Jérémie, dans l'Ancien Testament, c'était un temps de souffrance. Le peuple était déporté, il était opprimé dans un pays étranger, ennemi. Puis pourtant, Dieu visite Jérémie, qui est un prophète, puis il lui rappelle ses promesses. Dans Jérémie 29, 11, 14, c'est un texte familier, mais je le relis avec vous. « Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Dieu a des projets de bonheur. » Il y a des souffrances dans nos vies, mais ce que Dieu est en train de dire, c'est que même si c'est difficile, en ce moment, même si tu souffres en ce moment, le meilleur n'est pas juste en arrière. Ce n'est pas chose du passé. Il n'est pas stocké là puis il n'y a plus rien pour l'avenir. Non, non. J'ai encore des projets de bonheur. Un avenir. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Vous ferez appel à moi. Vous viendrez me prier et je vous écouterai. Vous ferez appel à moi, je relis, vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi le Seigneur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Souvent, on lit ce verset-là, « Ah oui, Dieu a des projets de bonheur, un avenir plein d'espérance. » Si je le cherche, si je le cherche de tout mon cœur, si vous me cherchez de tout votre cœur. La vérité, savez-vous quoi? c'est qu'il n'y a personne ici qui peut dire qu'il cherche Dieu de tout son cœur. Moi, la première. C'est pas vrai. On ne cherche pas Dieu de tout notre cœur. Et pourtant, la Bible dit ça, cherche Dieu de tout ton cœur. Ton cœur entier, cherche-le, t'arrives, aime-le de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. La vérité, c'est qu'il n'y a personne qui est capable de faire ça ici. Pourquoi? Parce qu'on a des cœurs divisés, on a des cœurs partagés, on a des luttes dans notre cœur. On a des mauvais désirs. On a de l'orgueil, on a des distractions. On lutte avec plein d'affaires. Mais c'est là toute la beauté puis la puissance de la prière. Parce que savez-vous qu'est-ce que ça fait la prière? Ça change tout. Amen. La prière, qu'est-ce que ça fait? Ça enlève toutes les distractions, toutes les divisions du cœur. Ça vient faire le ménage. On arrive avec notre cœur tout en morceaux, tout divisé, tout avec plein de luttes, avec plein de préoccupations. Mais la prière, elle vient unifier tout ça. Elle vient faire le ménage dans tout ça. Elle vient clarifier, elle vient aligner notre cœur avec lui de Dieu. C'est ça la beauté de la prière. Si vous me cherchez, si tu pries, tu vas te mettre à me chercher tout ton cœur. Parce que Dieu vient changer notre cœur. Si je prie, je vais pouvoir trouver, je vais pouvoir recevoir. Je vais pouvoir découvrir Dieu. Qu'est-ce que Dieu a pour moi? Je vais pouvoir rencontrer Dieu encore plus. Je vais pouvoir obtenir ce qu'il y a pour moi. C'est écrit dans la Bible que des fois, on ne reçoit pas parce qu'on demande mal. Il dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez juste pour satisfaire à vos besoins égoïstes. Mais on est tous comme ça. On est tous comme ça. Puis venir à Dieu avec notre cœur tout divisé, égoïste, Dieu sait, il nous attend. Puis il vient faire ce ménage-là dans notre cœur. La prière, c'est un cadeau. C'est un cadeau incroyable. C'est un cadeau de pouvoir confesser à Dieu puis de devenir réellement libre. Que ce n'est pas à force d'efforts que je peux arriver à être libre. Mais c'est juste de venir dans sa présence puis de lui dire. Puis il vient nous rendre libres. C'est un cadeau de pouvoir être unis avec le cœur de Dieu. La prière, c'est une arme puissante, comme j'ai dit. Puis souvent, je me demande comment seraient les choses si j'avais prié plus souvent dans certaines situations. Si au lieu d'avoir essayé de régler par moi-même, je m'étais mis à prier avant. Parce que pour être honnête, il y a bien des fois que j'ai prié quand ça allait vraiment mal puis que là, je ne savais plus quoi faire. Comme en dernier recours. Je pense que ça, on l'expérimente tous. Hein? Seigneur, là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, j'ai tout essayé. Et pourtant, ça aurait tellement été plus simple si je serais venue avant. Je me demande qu'est-ce que ça ferait. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, ce n'est pas une prière en particulier qui change tout. Mais c'est que tout change avec la prière. Tout. Y compris moi en premier. Combien de fois j'ai vu Dieu agir quand je suis juste venue dans sa prière, dans sa présence, à prier, dans des situations avec la famille, les enfants, n'importe quoi, où je ne savais plus comment agir, où j'appréhendais les discussions ou les rencontres ou tout ce qu'il y allait avoir. Puis j'ai prié, puis c'est comme si après, je sentais que Dieu avait tout déjà désamorcé d'avance. Sûrement, il y en a qui ont déjà vécu ça. On a besoin de venir plus souvent dans la présence de Dieu. Quand on vient dans la présence de Dieu, en fait, c'est qu'on est en train de donner notre cœur à Dieu. On est en train de donner notre vie à Dieu. Lui permettre d'agir dans notre vie. Je disais justement dans un groupe Connexion dernièrement que je ne suis pas mieux que personne parce qu'on oublie que Dieu agit. Des fois, on dit, « Ah, oh, Dieu, je ne suis pas tant sûre qu'il répond à mes prières tant que ça. Tu sais, je n'ai pas tant d'historique. » Mais c'est parce qu'on ne se rappelle pas. Puis moi, je tiens un journal avec les années parce que j'oublie. J'oublie la première. Juste le fait des fois d'écrire quelques mots, d'écrire ma situation, ce que je suis en train de vivre. Des fois, des mois après, des années après, je dis « Ah, je vivais ça, puis regarde, Il s'est passé ça après. Puis c'est ça qu'on disait, Dieu ne vient pas avec des fanfares puis des banderoles puis avec un gros, un trompette. Tu sais, là, je viens de répondre à ta prière! Des fois, ça se fait tellement subtilement, tellement tranquillement. Puis c'est après coup qu'on voit, hey, mais Dieu a tellement agi là, puis agi là, puis agi là. Puis ça m'aide un journal à me rappeler puis à voir, en fait, la ligne de mon histoire avec Dieu, comment il agit dans ma vie. D'être reconnaissante pour ça. Puis je vous invite d'ailleurs à la soirée Pray qu'on commence. On veut commencer à prier en église. On vous encourage à prier individuellement, c'est vital, mais en église, c'est encore puissant aussi. Puis on veut commencer ces soirées-là une fois par mois. 29 janvier, mettez ça à votre agenda. On va être surpris de voir Dieu agir. Je vous encourage à être là. Ce matin, on va prendre la communion. Je termine avec ça. On va prendre la communion ce matin, puis durant le chant, je vous invite à venir prendre chaque côté. Il y a une petite coupe pour ceux qui sont moins familiers, c'est une petite coupe avec un jus. Il y a comme deux choses à ouvrir. Sur le dessus, il y a un petit morceau de pain. Puis il y a une autre ouverture, il y a le jus. Fait que durant le chant, je vous invite juste à vous recueillir, puis à remercier Dieu. On veut prendre la communion pour se rappeler ce que Jésus a fait. Et comme la prière, ça nous donne un accès direct à Dieu. Mais cet accès-là, il est accessible, puis il a été rendu possible à cause de Jésus, puis à cause de ce qu'il a fait à la croix. Jésus a venu enlever ce qui nous séparait d'avec Dieu, ce qui nous empêchait d'avoir libre accès à lui. À la croix, Jésus est venu porter sur lui tous nos péchés, tout ce qui nous séparait de Dieu, tout le mal. Il l'a porté sur lui à notre place pour qu'une fois pour toutes, l'accès soit libre. Puis ça, Dieu, il nous demande de le reconnaître, d'accepter ce que Jésus a fait pour nous à la croix pour ça. Puis de retrouver cette connexion avec lui-là, cette réconciliation avec lui à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Parce que ce qu'on réalise, c'est qu'il n'y a pas une journée où je mérite plus d'être dans la présence de Dieu ou pas. Des fois, on s'empêche de venir à Dieu parce qu'on pense qu'on ne le mérite pas, qu'on n'a pas une bonne journée. On va attendre d'être mieux pour venir à lui. Mais ça ne viendra pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une journée que je mérite parce que ça ne va pas au mérite. Et ça ne va pas au mérite. Dieu a déjà rendu ça possible par Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a payé pour moi. Mais moi, il me l'offre comme un cadeau gratuit. Pourquoi? Parce que Dieu veut avoir accès à nous tout le temps. Il veut qu'on soit dans sa présence toujours. C'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas quelque chose que je mérite. C'est ce que Dieu veut. Il veut que je vienne dans sa présence. Dans sa présence, c'est là que Dieu va m'enlever ma honte. C'est là que son pardon est accessible. C'est là que je peux venir comme je suis. Puis de savoir qu'il est là, qu'il m'aime, qu'il me pardonne, que la restauration est possible, la guérison est possible, la délivrance est possible. Tout est possible dans la présence de Dieu. Mais il faut juste venir. Et qui va chanter « Je ferai une place pour toi ». La place est déjà faite à cause de Jésus. La place est déjà là. Tout est là. Tout est prêt. Tout est all set, comme on dit. Il manque juste nous. Est-ce que nous, on veut faire de la place à Dieu? Je vais terminer en priant. Seigneur, merci. Merci parce que tu as tout rendu accessible. Et t'as rendu ta présence accessible, Seigneur. Merci pour le sacrifice de Jésus à la croix. Puis merci de ce qu'on va prendre, les éléments de la communion ce matin, pour se rappeler que tu as souffert à notre place, que ton corps a été brisé comme conséquence de notre péché, que tu as souffert la mort, la séparation, Seigneur. Tu as été séparé. Jésus a été séparé de toi pour qu'on ne soit plus jamais séparés de nous avec Dieu. Seigneur, on veut recevoir ce cadeau-là du sacrifice de Jésus ce matin. On veut recevoir la vie de Jésus, sa mort et sa vie. Son sang qui a été versé pour le pardon de nos péchés. On veut être reconnaissant puis te louer, Seigneur, parce qu'on sait que sans toi, ça aurait été impossible. Tu as rendu tout accessible pour chacun de nous. Parce que tu nous aimais tellement que tu as envoyé ton Fils. Tu nous aimais tellement que tu as accepté de souffrir à notre place. Tu nous aimais tellement que tu as accepté d'être séparé de ton Fils pour plus jamais te séparer de nous. Seigneur, on veut répondre oui. On veut être présent aussi avec toi. On veut recevoir ta vie, le pardon de nos péchés, puis vivre cette relation-là avec toi, jour après jour. Venir dans ta présence, saisir ce privilège-là, ce cadeau-là, puis se priver de l'amour inconditionnel, de la vie en abondance, la sécurité qu'on a dans nos détresses, de savoir que tu es notre abri, notre refuge, puis d'être celui qui nous prépare une place pour l'éternité. Merci Seigneur, c'est en ton nom précieux que j'ai prié. Amen.